Amy Elliott, 8 janvier 2005. Journal. Tralala, je me fends la poire comme une orpheline qui vient d'être adoptée en écrivant ces mots. J'ai honte d'être si heureuse. Comme une case de BD en technicolor d'une fille avec une queue de cheval qui parle au téléphone avec au-dessus de sa tête une bulle qui dit « J'ai rencontré un garçon ». Mais c'est vrai. C'est une vérité technique, empirique. J'ai rencontré un garçon. Un mec super, splendide. Un type drôle et archi-cool. Laissez-moi planter le décor, car la scène mérite d'être immortalisée pour la postérité. Non, de grâce. Je suis pas cinglée à ce point-là. La postérité, n'importe quoi. Mais quand même. Le premier de l'an est passé, mais l'année débute tout juste. C'est l'hiver, la nuit tombe vite, il gèle. Carmen, une fille que je ne connais pas depuis très longtemps, pas vraiment une amie, pas assez proche en tout cas pour pouvoir l'annuler à la dernière minute, m'a convaincue de l'accompagner à Brooklyn à une de ses soirées d'écrivains. Attention, ça me plaît les soirées d'écrivains. J'adore les écrivains. Je suis fille d'écrivain. Je suis écrivain. Ça me plaît encore d'inscrire ce mot « écrivain » à chaque fois qu'un formulaire, un questionnaire, un document demande mon activité. Ok, j'écris des tests de personnalité. Je n'écris pas sur les grandes questions de notre temps. Mais je trouve que ça ne m'empêche pas d'être quand même écrivain. Je me sers de ce journal pour m'améliorer, affiner ma plume, récolter des détails et des observations. Apprendre à montrer sans souligner tous ces trucs d'écrivain à la noix. Un sourire d'orpheline qui vient de se faire adopter. Sérieusement, c'est pas mal, quoi. Mais en vérité, je pense réellement que mes quiz, à eux tout seuls, suffisent à me donner droit à ce titre. Au moins sur une base honorifique, non? Lors d'une fête, vous vous retrouvez entouré par de véritables écrivains, doués, employé dans des journaux et des magazines prestigieux et respectés. Vous n'écrivez que des tests pour la presse féminine bas de gamme. Lorsque quelqu'un vous demande ce que vous faites dans la vie, vous, deux points, petit a, bafouillez et dites « J'écris seulement des quiz, c'est débile ». Petit b, contre-attaquez. « Je suis écrivain en ce moment, mais j'ai envie d'essayer quelque chose de plus stimulant, de plus utile. Pourquoi ? Vous faites quoi, vous ?» Petit c, tirez fierté de vos talents. J'écris des tests de personnalité en m'appuyant sur les connaissances accumulées lors de ma thèse en psychologie. Oh, et pour l'anecdote, je suis l'inspiration d'une série de livres pour enfants archi-populaires. Je suis sûre que vous connaissez. L'épatante Amy. Ouais, ben dans ton cul, espèce de snob à la noix. Réponse C, 100% C. Quoi qu'il en soit, la fête était organisée par un bon pote de Carmen qui écrit sur le cinéma pour un magazine spécialisé, un type très drôle, d'après Carmen. J'ai craint une seconde qu'elle n'essaie de nous caser ensemble. S'il y a un truc qui est certain, c'est que je n'ai pas envie de me faire caser. J'ai besoin d'être prise par surprise, au dépourvu, comme un chacal sauvage de l'amour. Sinon, je perds tous mes moyens. Je sens que je suis en train d'essayer de faire du charme, puis je m'aperçois que, de toute évidence, je suis en train d'essayer de faire du charme, après quoi j'essaie de faire encore plus de charme pour compenser le charme bidon que je déploie, et là, bam, me voilà transformée en Liza Minnelli. Je danse en juste corps à paillettes en te suppliant de m'aimer. Il y a une canne, des claquettes et des sourires pleins de dents. Mais non. Je m'en aperçois pendant que Carmen chante les louanges de son ami. C'est elle qui en pince pour lui. Parfait. Nous montons 3 étages d'un escalier branlant et pénétrons dans un tourbillon de chaleur animale et de pose d'écrivain. Beaucoup de lunettes à monture noire et de mèches dans les yeux, des chemises à carreaux faussement western et des cols roulés chinés, des cabans en lainage noir étalés sur le canapé et en tas sur le sol, l'affiche allemande de guet-apens Ihre Chance war gleich null, sur un mur à la peinture écaillée, Franz Ferdinand en fond sonore, Take me out. Une grappe de mecs s'agglutine autour d'une table de jeu où est installé tout l'alcool. Ils se resservent presque à chaque gorgée, cruellement conscients du peu qu'il reste pour la soirée. Je joue des coudes pour m'approcher, tendant mon gobelet en plastique comme une mendiante pour obtenir quelques glaçons et une rasade de vodka d'un type à l'air gentil qui porte un t-shirt Space Invaders. Une bouteille de liqueur de pomme verte, qui semble franchement létale, achetée ironiquement par notre hôte, sera bientôt notre seul destin. À moins que quelqu'un ne se charge du ravitaillement. Ce qui paraît peu probable, vu que apparemment tout le monde est persuadé de s'être tapé la corvée la dernière fois. C'est une fête de janvier. Pas de doute, tout le monde est encore gavé et écœuré par les sucreries engouffrées pendant les fêtes, à la fois flemmards et agacés. Une fête où les gens boivent trop et se lancent dans des joutes verbales subtiles et crachent leur fumée de cigarette par une fenêtre ouverte, même après que l'hôte leur a demandé d'aller dehors. Tout le monde s'est déjà parlé lors d'un millier de fêtes. Nous n'avons plus rien à dire. Nous nous ennuyons collectivement, mais nous ne voulons pas ressortir dans le froid de janvier. Nous sommes encore courbattus des marches du métro. Carmen m'a abandonné pour notre hôte, son soupirant. Ils sont en pleine discussion passionnée dans un coin de la cuisine. Tous deux, les épaules voûtées et le visage tourné l'un vers l'autre, ils forment un cœur. Parfait. J'hésite à manger un truc pour me donner quelque chose de mieux à faire que de rester plantée au milieu de la pièce, en souriant comme une gamine qui arrive à la cantine pour la première fois. Mais il ne reste pas grand-chose. Quelques éclats de chips au fond d'un Tupperware géant, un plateau de carottes blanchâtres et de céleri ratatiné sous vide, avec une sauce qui ressemble à du sperme, intact, sur une table basse. Et des mégots en guise de bâtonnets de légumes bonus. Je me laisse aller à ma nature impulsive. Et si je sautais du balcon de ce théâtre sur le champ? Et si je roulais une pelle au SDF assis en face de moi dans le métro? Et si je m'asseyais par terre, au milieu de la fête, et que je mangeais tout ce qu'il y a sur ce plateau de crudité, y compris les mégots? Je vous en prie, ne mangez rien dans cette zone, dit-il. C'est lui. Boum, boum, boum. Mais je ne sais pas encore que c'est lui. Boum, boum, boum. Je sais que c'est un mec qui veut bien me parler. Il porte son insolence comme un t-shirt à message décalé, mais ça lui va mieux. Il a la dégaine d'un mec qui couche avec beaucoup de nanas. Un mec qui aime les femmes. Un mec qui me baiserait correctement, à vrai dire. J'aimerais bien qu'on me baisse correctement. Ma vie sentimentale semble tourner autour de trois types d'hommes. Les types BCBG de l'Ivy League qui s'imaginent qu'ils vivent dans un roman de Fitzgerald. Des boursicoteurs gominés de Wall Street avec des dollars dans les yeux, les oreilles, la bouche. Des garçons sensibles et intelligents qui sont tellement conscients qu'on dirait que toute leur vie est une plaisanterie fine. Les héros fitzgeraldiens, si je puis dire, ont tendance à être inefficaces au lit. Beaucoup de bruit et de gymnastique pour fort peu de résultats. Les financiers sont pleins de rage et mous. Les garçons sensibles baisent comme s'ils étaient en train de composer un morceau de matrock. Une main qui gratouille par ici, un doigt qui improvise une ligne de basse sympa. Je suis une vraie salope, pas vrai? Pause, je compte, ça fait 11. Pas mal. J'ai toujours pensé que 12 était un chiffre solide, raisonnable, un chiffre auquel il ferait bon s'en tenir. Sérieusement, continue numéro 12. Éloigne-toi du plateau. James a 3 autres aliments dans son frigo. Je pourrais te préparer une olive à la moutarde. Mais rien qu'une olive, cela dit. Rien qu'une olive, cela dit. C'est une phrase qui est seulement un petit peu drôle, mais elle ressemble déjà à une private joke, une blague qui deviendra plus drôle avec la nostalgie de la répétition. Je me dis, dans un an, nous traverserons le pont de Brooklyn, à pied, au coucher du soleil, et l'un de nous murmurera « Rien qu'une olive, cela dit. » Et nous éclaterons de rire. Puis je me reprends. Affreux. S'il savait que j'étais déjà dans un trip dans un an nous, il prendrait ses jambes à son cou et je serais dans l'obligation de l'encourager. Surtout, je dois l'avouer, je souris parce qu'il est splendide. D'une beauté qui empêche de penser. Qui vous fait les yeux en tête d'épingle. Qui vous donne envie de prendre le taureau par les cornes, de rechef. Tu sais que tu es splendide, n'est-ce pas ? Avant de poursuivre la conversation comme si de rien n'était. Je parie que les mecs le détestent. Il ressemble à un méchant friqué dans un film pour ados des années 1980. Celui qui martyrise l'outsider sensible. Celui qui finit par se faire entarter, avec de la crème qui coule dans son col relevé, sous les applaudissements de tout le réfectoire. Mais il n'agit pas de cette façon. Il s'appelle Nick. J'adore. Ça lui donne l'air gentil et normal, ce qu'il est. Lorsqu'il me dit son nom, je rétorque « Ah, ça, c'est un vrai nom !» Son visage s'éclaire et il lance « Nick, c'est le genre de mec avec qui tu peux boire une bière, le genre de mec qui ne fait pas d'histoire si tu dégueules dans sa voiture. Nick !» Il fait une série de jeux de mots minables. Je repère les trois quarts de ses références cinématographiques, les deux tiers peut-être. Note mentale, loué garçon choc pour nana chic. Il remplit mon verre sans que j'aie besoin de le lui demander et se débrouille même pour dégoter un dernier verre de bonne gnôle. Il m'a revendiqué. Il a planté son drapeau sur moi. J'étais là le premier, elle est à moi, à moi. C'est agréable en fait d'être un territoire après ma récente série d'hommes post-féministes complexés. Il a un sourire magnifique, un sourire de chat. Quand il me sourit, je ne serais pas étonnée s'il se mettait à tousser des plumes de canari. Il ne me demande pas ce que je fais dans la vie, ce qui est cool parce que ça change. Je suis écrivain, je l'ai déjà dit. Il me parle avec un accent chatoyant du Missouri. Il est né et a grandi tout près d'Hannibal. Le berceau de Mark Twain, le cadre de Tom Sawyer. Il me raconte qu'il a travaillé sur un vapeur dans son adolescence, dîner et jazz pour les touristes. Et quand je ris, moi, la petite New-Yorkaise pourrigatée qui ne s'est jamais aventurée dans ces grands états encombrants de l'Amérique profonde, ces états où vivent les autres, il m'informe que le Missouri, avec l'accent, est un lieu magique. Le plus beau du monde, qu'il n'y a pas d'état plus magnifique que le sien. Il a les yeux malicieux, de longs cils. Je me le représente sans difficulté, petit garçon. Nous partageons un taxi pour rentrer. Les lampadaires font des reflets qui donnent le vertige et la voiture fonce comme si on était poursuivi. Il est 1h du matin lorsque nous aboutissons dans l'une de ces impasses qui surgissent sans explication dans les rues de New York, à 12 rues de mon appartement. Alors nous sortons du taxi et nous nous enfonçons dans le froid, dans le grand et après. Nick m'accompagne sur le chemin de chez moi, la main sur le creux de mes reins. Notre visage est anesthésié par le gel. Au carrefour, la boulangerie est en train de se faire livrer son sucre en poudre. Qui passe dans le cellier par un entonnoir, comme du ciment. Et nous ne distinguons que l'ombre des livreurs dans le nuage de poudre blanche et suave. La rue vacille, et Nick m'attire contre lui, et fait de nouveau son fameux sourire. Et il prend une mèche de mes cheveux entre deux de ses doigts, et la déroule complètement. Il tire deux fois, comme si c'était une sonnette. Ses cils sont mouchetés de poudre. Et avant de se pencher sur moi, il époussette le sucre sur mes lèvres pour pouvoir me goûter.